Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, la fermeture prochaine de l'usine Ford de Blanquefort semble désormais plus que probable. Le constructeur automobile américain a confirmé ce matin qu'il refusait la dernière offre de reprise de Punch pour son usine près de Bordeaux et qu'il continuait de privilégier un plan social pour les 800 salariés du site.
À trois mois des élections européennes, un duo de tête se détache largement des autres formations.
Oui, c'est ce qui ressort d'un nouveau sondage publié aujourd'hui avec 22% d'intention de vote. La liste de La République En Marche alliée au Modem devance de 3 points celle du Rassemblement National, loin de devant tous les autres partis d'opposition.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, la parole à l'accusation au procès de Mehdi Nemmouch.
Oui, cet homme accusé des 4 assassinats commis au musée juif de Bruxelles en 2014. Les procureurs dissèquent donc depuis ce matin et pendant 2 jours les preuves recueillies contre lui pour le faire condamner.
Tiraillé entre orientation pro-européenne et rapprochement avec Moscou, les Moldaves ont élu hier un parlement sans majorité claire.
C'est ce qui ressent en tous les cas du résultat des élections législatives publiées ce matin, au risque donc de devoir traverser une nouvelle période d'instabilité.
Alors enfin, dans ce journal, nous irons également en Chine où une application mobile de propagande fait fureur sous la pression du Parti communiste.
Et des millions de Chinois l'ont déjà téléchargé. Il s'agit d'y apprendre la pensée du président actuel Xi Jinping dans l'espoir d'obtenir une promotion. Enfin, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, invité de la rédaction dans moins d'une demi-heure, Christine Valentin, présidente de la Chambre d'Agriculture de Lozère. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Les petites patries font-elles les grandes nations ? On va revenir sur l'idée régionale aujourd'hui. Entre identité et réalité administrative avec notre invité. Il est historien, Olivier Grenouillot. Il a retracé cette longue histoire des relations entre nos provinces et l'État central. On en parlera avec lui à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. La mauvaise nouvelle était redoutée. Ce matin, Ford a donc confirmé qu'il refusait la dernière offre de reprise présentée par le groupe belge Punch pour son usine de Blanquefort. Offre jamais détaillée, mais qui avait tout de même été annoncée triomphalement par Bercy lundi dernier. En vain, donc, les syndicats eux-mêmes, d'ailleurs, continuaient de se montrer inquiets, en particulier parce que le plan du repreneur n'était a priori pas accompagné de lettres d'intention de clients, faisant ainsi redouter un carnet de commandes insuffisant. Quoi qu'il en soit, le rejet ce matin de Ford devrait donc, selon toute vraisemblance, entraîner la fermeture du site. Ce sera fin août. Marie Vienno, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelons que Ford avait déjà rejeté une première proposition à la mi-décembre en expliquant qu'elle ne lui paraissait pas assez solide et affirmant qu'un plan social serait plus avantageux pour les salariés. Et c'est dans les mêmes termes que Ford a donc de nouveau présenté son choix ce matin. Alors pourquoi, Marie, serait-ce mieux de licencier 850 personnes plutôt que d'accepter un projet de reprise ?
Bien, pour le constructeur américain, le plan social qu'il propose à ses salariés offre plus de visibilité sur leurs options à venir. Je cite là ses déclarations à l'agence France Presse. Avec le plan social, il y a en gros 3 possibilités pour les salariés de Ford Blanquefort. 1. La pré-retraite. Cela concernerait environ la moitié des effectifs de l'usine, car il n'y a pas eu de renouvellement des emplois depuis longtemps et que la moyenne d'âge y est de 51 ans. 2. Des reclassements pour quelques salariés dans l'usine voisine, qui appartient pour moitié à Ford, mais cela concernera très peu de personnes. Et 3. Un accompagnement vers l'emploi via une structure de reclassement, comme le proposent tous les plans sociaux. Dans ce cas, les salariés touchent une indemnité de licenciement plus une prime que l'on dit supralégale qui se négocie avec les syndicats. L'option du repreneur peut sembler plus intéressante car elle aurait permis de reprendre la moitié des 850 salariés, donc il y aurait eu peu de licenciements secs. Mais Ford affirme depuis décembre que cette offre n'est pas viable et qu'en cas d'échec, les salariés seront moins bien lotis. En cas d'échec, surtout, Ford craint d'être rappelé à la rescousse, comme cela s'est déjà produit. En 2008, la multinationale américaine avait cédé l'usine de Blanquefort à un repreneur qui a failli et sous la pression des pouvoirs publics, elle a dû reprendre l'usine de Blanquefort 2 ans plus tard alors qu'elle voulait s'en débarrasser. En refusant le repreneur, Ford écarte cette possibilité et la loi dite Florange le lui permet car elle oblige à rechercher un repreneur quand on veut fermer une activité, mais pas à lui revendre.
Merci Marie Vienno. Et en l'absence donc de repreneur solide et faute d'accord de Ford pour une solution alternative, eh bien une réunion prévue en fin d'après-midi à Bercy devrait être l'occasion d'entériner donc cette fermeture. Vous avez joint Marie au téléphone Philippe Poutou, délégué CGT de l'usine automobile Ford Blanquefort et porte-parole du NPA, pour lui demander ce qu'il attendait lui de cette réunion.
On a bien compris qu'une reprise avant la fermeture de l'usine, c'était mort. Et là, maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est bousculer les pouvoirs publics, bousculer l'État et les collectivités territoriales pour qu'ils travaillent sur une solution industrielle très rapidement.
On va vous proposer un plan de revitalisation du bassin d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, justement, c'est ça qu'on refuse. On leur a déjà dit. On leur a dit que ça, c'était du pipeau complet, quoi. Si c'est pour faire semblant, si c'est pour faire comme si derrière, il y allait avoir autre chose. Non, nous, on veut une véritable activité sur l'usine, quelque chose qui soit visible. Ça veut dire que l'État, à un moment donné, il faut qu'il arrête de s'indigner ou de juste protester. C'est qu'il faut prendre des mesures radicales. Bien, pour nous, la mesure radicale, c'est de prendre l'usine en main. Voilà, c'est que cet outil de production-là, il soit repris en main et que, y compris les machines, soient gardées, parce qu'on sait que Ford veut les vendre. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui sont posés. Et nous, on veut donner les chances d'une véritable activité dans la foulée. Alors, évidemment, dans l'immédiat, c'est dans le secteur automobile et la fabrication des boîtes de vitesse, c'est ce qui apparaît le plus crédible. Cette usine-là, elle doit fonctionner dans les mois qui suivent. Et pour qu'elle fonctionne, eh bien, ça suppose que l'État intervienne et réfléchisse à mettre en contact avec d'autres projets. Là, ça discute, par exemple, des batteries automobiles, l'accord franco-allemand. Enfin, est-ce qu'on peut inscrire le site là-dedans ? Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est juste de ne pas se résigner à ce qu'une usine ferme, que ce soit une frise demain.
Voilà, Philippe Poutou, donc délégué CGT de l'usine automobile Ford Blanquefort et porte-parole du NPA. Joué au téléphone par vous, Marie Viennot, merci. À peine évoqué, déjà enterré, hier Matignon a fermé la porte à la proposition de la ministre Jacqueline Gourault de faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français, y compris les plus modestes. Rappelons qu'en France, 43% des foyers fiscaux s'acquittent aujourd'hui de cet impôt, les autres étant exonérés du fait de la faiblesse de leurs revenus. Cette piste n'est pas à l'étude, a aussitôt tranché l'entourage du Premier ministre, un épisode qui vient ainsi illustrer à tout le moins les difficultés du gouvernement sur cette question fiscale. À 3 semaines de la fin du grand débat, le sujet de la justice fiscale reste d'ailleurs, lui, au cœur des revendications de très nombreux gilets jaunes. Des gilets jaunes qui, selon un sondage publié aujourd'hui, apparaissent de moins en moins soutenus. Pour la première fois, une majorité de Français, 55% des personnes interrogées, demanderaient désormais l'arrêt de leur mouvement. Dans le même temps, la cote de popularité d'Emmanuel Macron continue sa progression avec 32% d'opinion favorable au mois de février, soit une augmentation de 2 points par rapport au mois précédent. Et puis une autre enquête semble elle aussi témoigner de ce que la majorité n'aurait au fond pas été trop impactée par cette crise des gilets jaunes. Selon une enquête Harris Interactive et Epoca, les prochaines élections européennes se structureraient a priori autour du duel entre d'une part la liste présidentielle de La République En Marche et d'autre part celle du Rassemblement National soutenu par Marine Le Pen. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Comme une réplique en somme du second tour de la dernière élection présidentielle, ces deux forces dominantes font plus que jamais le vide autour d'elles, dispersant les gauches et effondrant également la droite de gouvernement.
Oui, ce n'est pas le premier sondage qui le montre. Dans cette enquête réalisée en fin de semaine dernière sur un échantillon de 1064 personnes représentatives, La République En Marche arrive en tête des intentions de vote pour l'élection du 26 mai prochain. 22% des sondés sont prêts à accorder leur voix au parti du président, un tout petit peu plus que le Rassemblement National qui oscille entre 19 et 20% des intentions de vote, suivi par François-Xavier Bellamy pour les Républicains à 12%, Yannick Jadot chez les Verts et Manon Aubry chez les Insoumis à égalité à 8%, puis le PS 6%, tout comme Debout la France, Génération enfin en queue de comète avec 4% des intentions de vote. Une enquête qui résonne avec l'état de l'opinion au sujet des gilets jaunes, vous venez d'en parler, elle montre aussi qu'en dépit de la crise démocratique, des invectives à son égard, le chef de l'État a réussi à consolider une base électorale et même à l'élargir, en particulier à droite, puisque la fermeté affichée de ces dernières semaines par La République En Marche semble attirer d'anciens électeurs de François Fillon. La stratégie de la bipolarisation semble donc opérante. Un affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui risque d'asphyxier les autres concurrents en témoigne ce matin François-Xavier Bellamy chez nos confrères de France Inter. Bien sûr que j'irai jusqu'au bout, je ne compte pas me défausser devant cette responsabilité que j'ai accepté, déclare la tête de liste LR avec des mots qui sonnaient un peu comme un découragement.
Alors précisons tout de même, Anne, que la campagne n'a pas encore commencé et qu'à ce titre, cette photographie de l'électorat est donc à prendre évidemment avec précaution.
Oui, dans toutes les élections, on le sait, les électeurs se politisent de plus en plus tard et cette crise des gilets jaunes, elle risque de différer un peu plus l'entrée de plein pied dans cette campagne pour les européennes avec ce grand débat donc qui va se finir à la mi-mars. Et puis, il y a encore de nombreuses inconnues, les têtes de liste, notamment la République En Marche n'a toujours pas tranché l'épineuse question de sa tête de liste, tout comme la gauche non mélenchoniste, même si une candidature unique entre le PS, Génération, le PCF et les Verts a peu de chances d'aboutir.
Merci Anne Fauquemberg. La dernière ligne droite pour le procès de Mehdi Nemmouche, ce djihadiste français jugé à Bruxelles pour le quadruple assassinat au musée juif de Belgique, c'était en mai 2014. Ce matin, Le procureur a rappelé aux jurés quelques grands principes. Compte rendu d'audience signé de notre envoyé spécial Antoine Marette.
Un accusé a le droit de se taire, on l'aura compris dans cette affaire, et il a aussi le droit de mentir. Si l'avocat général Yves Moreau rappelle ce grand principe de droit, c'est que dans ce dossier, il n'y a pas d'aveu de Medine Mouche. L'accusé l'a affirmé dès le premier jour d'audience, il ne reconnaît pas être l'auteur de la tuerie du musée juif de Belgique. Et sans aveu, il n'y a pas de certitude absolue de sa culpabilité. Alors peut-on condamner quelqu'un sans certitude absolue ? Oui, répond le procureur, car sinon il suffirait pour chaque accusé de nier pour être acquitté. Il reste toujours des questions sans réponse. La certitude absolue n'existe pas. En niant, un suspect crée lui-même de l'incertitude, explique Yves Moreau. Mais cette absence de preuve absolue ne doit pas emporter la conviction du juge, car dans ce dossier, l'ensemble des éléments convergent vers la culpabilité de Medine Mouche, explique l'avocat général. Chaque élément pris isolément est insuffisant pour prouver qu'il est coupable, mais les éléments collés entre eux le prouvent, c'est la preuve par présomption. Le procureur énumère les différentes pièces du dossier qui accablent Medine Mouche, les PV, les auditions, les expertises et les témoignages. Yves Moreau s'attaque à la défense pour laquelle, selon lui, la fin justifie les moyens. Elle n'a pas hésité à salir et piétiner la réputation des enquêteurs, des juges et des témoins en les traitant de menteurs, de manipulateurs et d'affabulateurs, s'indigne-t-il. Et de conclure à l'adresse des jurés, quoi qu'en disent les avocats de Medine Mouche, je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu dans cette affaire la moindre tricherie dans notre travail. Personne n'a traficoté quoi que ce soit.
Le gouvernement britannique envisagerait différentes options si la Chambre des communes ne ratifie pas d'ici au 12 mars l'accord sur le Brexit. Déclaration ce matin d'un responsable du cabinet de Theresa May. En annonçant la veille qu'il n'y aurait pas de vote sur un accord de retrait avant cette date, la première ministre britannique a une nouvelle fois repoussé donc ce rendez-vous décisif pour la suite de la procédure de divorce. Enfin, son annonce a aussi été accompagnée de plusieurs articles de presse selon lesquels Theresa May pourrait être contrainte de repousser la date même du Brexit qui, pour l'heure, je vous le rappelle, reste fixée au 29 mars au soir. Considéré comme l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec l'Ukraine, la Moldavie était appelée hier à renouveler son parlement selon des résultats non encore définitifs. Il semble que le parti socialiste pro-russe soit arrivé en tête de ces législatives. En revanche, aucun parti n'obtiendrait de majorité absolue, reflétant ainsi les profondes divisions qui depuis des années affectent cette ex-république soviétique entre d'un côté les partisans d'un rapprochement avec Moscou et de l'autre ceux d'une intégration à l'Union européenne. Audrey Tison, bonjour.
Bonjour.
Alors, en raison d'un mode de scrutin complexe mêlant proportionnel et scrutin locaux, la composition exacte du futur Parlement ne sera connue que plus tard dans la journée, mais les premières indications, Audrey, laissent d'ores et déjà présager une possible nouvelle période d'instabilité.
Oui, avec 31% des voix au scrutin proportionnel, le Parti Socialiste peut se targuer d'une victoire, mais n'est pas en mesure de gouverner seul. C'est le camp du président sortant, Igor Dodon, proche de Vladimir Poutine. Ils sont notamment sur la même longueur d'onde dans le dossier de la Transnistrie. Dodon avait affirmé avant le scrutin qu'il n'était pas question de s'allier avec ses principaux concurrents. D'un côté, le PDM, parti démocrate de l'oligarque Vlad Plahotniuc. Il arrive a priori troisième de cette proportionnelle alors qu'il dominait le Parlement sortant. Il a longtemps incarné le camp pro-européen soutenu par Bruxelles avant d'être lâché, notamment à cause de la corruption qui gangrène le régime. Plahotniuc dénonce aujourd'hui une ingérence grossière de la part de la Russie dans ce scrutin. La police russe l'a en effet accusé publiquement d'être impliqué dans un circuit de blanchiment d'argent, annonce faite dans les tout derniers jours de la campagne électorale. Ces deux hommes, Dodon et Plahotniuc, sont clairement ennemis. Ils s'accusent d'ailleurs mutuellement d'avoir acheté des voix d'électeurs. Entre ces deux figures politiques, il y a également ACUM, une alliance de deux partis libéraux pro-européens qui arriverait en deuxième position au niveau national. ACUM qui dénonce des élections ni libres ni correct, les élections les moins démocratiques de l'histoire de la Moldavie, d'après l'une de ses têtes d'affiche, Maia Sandu. Ce camp veut incarner un renouveau pro-européen. Il dénonce la corruption et l'accaparement des postes à responsabilité par le Parti démocrate, notamment dans le domaine politique, de la justice, des forces de l'ordre. Bref, ces trois camps semblent irréconciliables. On voit mal comment une coalition pourrait émerger. En Moldavie, certains évoquent déjà l'hypothèse de nouvelles élections.
Merci Audrey Tison. Avec 5 scrutins majeurs cette année, la démocratie poursuit inexorablement sa route en Afrique, mais avec quelle crédibilité si elle ne posait pas une question aussi cruciale que celle de savoir dans quel sens souffle véritablement le vent du changement sur le continent noir. L'élection présidentielle organisée hier au Sénégal prêterait presque à sourire tant il apparaît qu'elle aura sans doute elle aussi bien du mal à échapper aux clichés de nature habituellement à jeter le doute quant à l'issue véritable du scrutin. Alors qu'un parfum de nouveauté était pourtant censé planer sur ces élections que d'aucuns entrevoyaient comme un tournant majeur dans l'histoire politique du pays hier soir, et sans prendre la peine d'attendre la proclamation officielle des résultats, le camp du chef de l'État sortant, Macky Sall, a d'ores et déjà revendiqué sa victoire. Une déclaration qui a aussitôt provoqué l'incrédulité sur les réseaux sociaux, mais aussi plus largement parmi la population, laquelle s'est étonnée d'une annonce aussi précipitée. La veille, au Nigeria, les électeurs étaient eux appelés à choisir parmi un nombre record de 73 candidats en lice pour prendre la tête de la première économie d'Afrique. Pour l'heure, aucun résultat n'a encore été annoncé officiellement, même si chacun des deux favoris a d'ores et déjà en réalité proclamé sa victoire. D'un côté, le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, qui a 76 ans et en dépit d'une santé vacillante, brigue un second mandat. Et puis de l'autre, Atiku Abubakar, principal candidat de l'opposition, également septuagénaire et ancien vice-président. En Algérie, 3 journées consécutives de rares manifestations ont envahi les rues de la capitale pour s'opposer à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, lequel serait arrivé hier soir à Genève pour des examens médicaux. Ce matin, le Premier ministre s'est contenté de répondre que la question du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika serait tranchée par les urnes. En Chine. En Chine, même la propagande se modernise. L'application la plus téléchargée aujourd'hui dans l'Empire du Milieu est à destination des membres du Parti communiste, tout en permettant de suivre l'actualité grâce à une sélection d'articles des médias officiels. Cette application, téléchargée près de 44 millions de fois depuis son lancement en janvier dernier, permet aussi et surtout d'étudier la pensée de l'actuel président Xi Jinping dans l'espoir d'obtenir non seulement une tablette tactile mais également une promotion. Car cette appli permet également de savoir si vous avez bien fait vos devoirs grâce à une note individuelle. Bref, une sorte de parfait petit livre rouge électronique. Les précisions à Shanghai de Simon Leplâtre.
À première vue, l'application n'a rien de particulièrement séduisant. On y trouve des articles du quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste ou des vidéos de la télévision d'État chinoise, pas vraiment le genre de sujet qui font le buzz. Mais la plupart des Chinois qui ont téléchargé cette application n'ont pas vraiment eu le choix. Ce sont les 86 millions de membres du Parti communiste qui ont eu l'ordre de le faire. En chinois, elle s'appelle « Shuixi Qianguo », ce qui peut se traduire par « étudier le pays puissant », mais aussi, il y a un jeu de mots, « étudier si le nom du président chinois, Xi Jinping, rendre le pays fort ». La spécificité de cette application, c'est qu'en plus d'une sélection d'articles, elle intègre un système de notation pour évaluer le sérieux des utilisateurs. L'application sait ce que vous avez lu, quand, et propose même des questionnaires pour vérifier ce que vous avez retenu. Bref, plus question de somnoler pendant les réunions du parti. Certains fonctionnaires ou employés d'entreprises d'État se plaignent même sur les réseaux sociaux d'être obligés d'atteindre 40 ou 50 points par jour. Cette jeune journaliste dans un média d'État à Shanghai est membre du parti. Elle a dû télécharger l'application.
C'est vraiment très moderne. En plus, il y a une sorte de tableau où on peut voir les notes des collègues de son entreprise. Tout le monde a un peu l'esprit de compétition. Il y a des gens qui vont vouloir être les premiers.
Bref, avec l'application « Étudier si rendre le pays fort », c'est la propagande chinoise qui se modernise en devenant ludique. Certains se vantent déjà de leur score sur les réseaux sociaux. Les plus chanceux affichent même les livres, les places de cinéma reçues pour les récompenser.
Après un week-end de violence aux frontières avec la Colombie et le Brésil, violences qui ont fait près de 300 blessés, au moins 3 morts, les pressions s'accentuent sur le président vénézuélien Nicolas Maduro, lequel refuse toujours de laisser rentrer les convois humanitaires dans son pays. La suite du bras de fer entre le chef d'État élu et le président autoproclamé Juan Guaido se jouera aujourd'hui à Bogota avec la réunion du groupe de Lima ainsi que le vice-président des États-Unis. Bien déterminé à défendre son plus proche allié, le Venezuela, qui lui apporte pétrole et soutien économique, Cuba organisait hier un référendum visant à adapter sa constitution à l'ouverture économique de l'île. Cette réforme reconnaît notamment le marché et les investissements étrangers comme nécessaires pour relancer la croissance du pays miné par les pénuries. Les résultats du vote seront connus cet après-midi. L'invité de la rédaction à présent en direct et en duplex du Salon de l'Agriculture, Christine Valentin, présidente de la Chambre d'Agriculture de Lozère. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Thomas.
Une première question, madame Valentin. Si l'on regarde les statistiques, il semble qu'il y ait du mieux aujourd'hui dans le monde agricole. Sauf qu'il y a les chiffres d'un côté et évidemment le moral de l'autre. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est véritablement de l'attitude et du moral des agriculteurs aujourd'hui ?
Il y a du mieux, oui, dans le monde agricole. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout va bien. Le monde agricole est quand même aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour expliquer qu'il faut se faire savoir aux consommateurs que nous faisons du bon travail, que l'agriculture est jolie sur nos territoires, que nous avons pris conscience qu'il fallait répondre à une attente du consommateur par rapport à du bien-être animal, que nous y travaillons depuis plusieurs années. Et c'est là que c'est un bon endroit aujourd'hui avec le public qui est avec nous au Salon de l'Agriculture pour être nous les ambassadeurs, mais aussi trouver des nouveaux ambassadeurs à travers ce public qui vient nous voir pour diffuser cette image positive de l'agriculture vers tous les consommateurs, tous les citoyens qui ont parfois des doutes sur ce que nous faisons.
Alors vous, Christine Valentin, vous êtes engagée pour faire savoir tout ça. Est-ce que quand même il ne reste pas difficile de mobiliser les agriculteurs qui ont des fois d'autres priorités que de faire savoir justement ce qu'est leur métier ?
Alors bien sûr, la priorité d'un agriculteur, c'est pas d'expliquer ce qu'il fait, c'est avant tout d'avoir de faire son métier, d'avoir un revenu pour bien exploiter son territoire et ses animaux ou ses terres. Mais la mobilisation des agriculteurs, elle devient finalement, même si elle était restée en dehors finalement de tous ces, je pense au dernier mouvement sur les gilets jaunes, sur les attaques sur l'agribashing. Nous étions restés un peu en dehors. Je crois qu'aujourd'hui, les agriculteurs, où qu'ils soient, même au plus fond dans les territoires, au plus profond des territoires, dans la ruralité profonde, nous avons besoin, nous sentons une expression des agriculteurs pour justement dire, exprimer, pas un sentiment de révolte, mais exprimer ce qu'ils font et ce qu'ils font de bien. Je crois que oui, on arrive à les mobiliser à nouveau, même si c'est pas forcément quelque chose qui est naturel chez eux.
Alors, on voit souvent l'agriculteur comme un producteur, et c'est ce qu'il est, mais il est aussi, plus que ça, il modèle les paysages, notamment dans les territoires ruraux, comme le vôtre, la Lozère, il anime aussi la ruralité. Est-ce que ça, et le public et les pouvoirs publics l'ont bien compris? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils le comprennent et qu'ils aident à ça?
Alors, nous avons, oui, si vous prenez l'exemple de la Lozère, nous arrivons justement avec un taux de d'installation très fort en Lozère, puisque nous sommes pratiquement à un renouvellement pour un départ en retraite, ce qui est quand même ce qui place le département dans des meilleurs taux au niveau national. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est rendre le territoire attractif, c'est-à-dire maintenir des services publics dans les territoires et au plus profond de la France, des services publics actifs. Nous n'aurons pas d'installation si nous avons des territoires déserts. Nous n'aurons pas des femmes ou des conjoints d'exploitants qui voudront venir dans ces territoires si nous ne maintenons pas des services à la personne, des services publics, de la culture aussi développée, et si nous ne développons pas aussi les moyens d'accès. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la Lozère, nous nous battons pour avoir un aménagement de la Nationale 88 qui relie Lyon à Toulouse pour pouvoir justement créer de l'emploi. Alors, rendre le territoire plus attractif, certes pour des conjoints d'exploitants, mais aussi rendre le territoire plus attractif pour des entreprises qui viendraient s'implanter en Lozère et qu'aujourd'hui sont finalement écartelées entre l'envie d'aller dans un territoire plus facile, où il fait plus bon vivre, mais en même temps où l'accès routier est compliqué et l'accès au numérique est aussi difficile puisque nous avons de nombreuses zones blanches encore dans ces territoires. Alors, je crois que là, les politiques ont un vrai devoir et ils le savent.
Alors, il y a rendre le territoire attractif. Comment on rend le métier attractif? Parce que vous le dites, en Lozère, il y a du renouvellement, mais c'est vraiment pas le cas partout ailleurs. Il y a de moins en moins de transmission d'exploitation.
Oui, alors comment on pourrait valoriser ce qu'on fait en Lozère et essayer de l'étendre au reste de la France? Ça, c'est une vraie question. Moi qui suis, j'ai 50 ans, donc je me dis comment ces jeunes, on peut essayer de dupliquer leur énergie. Nos jeunes agriculteurs, notre syndicat jeunes agriculteurs, a la façon d'intervenir dans les écoles, dès le plus jeune âge, pour expliquer justement ce qu'est le métier. ce qu'il donne aussi comme qualité de vie, ce qu'il procure comme qualité de vie. Nous avons ces jeunes qui sont toujours très intervenants aussi dans les écoles, en troisième au moment de l'orientation. Donc, c'est quand même très important. La Chambre d'agriculture y participe aussi. Nous avons des forums de l'installation, des forums d'orientation où nous sommes présents, le monde agricole. Je crois que là, nous avons vraiment un métier, un vrai rôle pour faire découvrir notre métier et pour expliquer l'attractivité. Nous devons aussi, à notre niveau, dans notre métier, et tous ceux qui nous entourent aussi, faire savoir qu'il est possible de bien gagner sa vie en agriculture. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut prévoir son installation, la réfléchir, la travailler. On nous dit parfois, le parcours à l'installation, c'est quand même très long. Oui, c'est long, mais parce qu'on mûrit un projet, il ne faut pas être fermé sur une idée bloquée. Il faut aussi savoir se remettre en cause.
Alors vous, par exemple, vous l'avez fait, vous êtes passé au bio.
Voilà, alors par exemple, si on prend mon exemple, nous étions en conventionnel. Nous sommes maintenant en bio depuis 2 ans. Et cette transformation de l'exploitation, cette mutation, a été faite pour une simple raison. Nous avons des vaches laitières et des brebis laitières sur notre exploitation de Gaec. Les vaches laitières, prix cours mondial, pas possible. Donc il fallait absolument trouver quelque chose, la conversion au bio, avec des entreprises qui demandaient du lait bio, nous a permis vraiment de sortir la tête de l'eau. Et d'autres agriculteurs peuvent le faire.
Et on terminera là-dessus.
Marché à développer.
Merci beaucoup, Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture de Lozère, d'avoir été en direct et en duplex depuis le Salon de l'agriculture. Et merci également à Anne-Laure Chouin. Un mot rapide de météo avec du soleil partout en France et des températures comprises entre 13 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.